qui sont à utilisation unique.
Il y a une question qui vient souvent et qui concerne le soleil, son effet sur la propagation ou non du coronavirus. Est-ce que le soleil a vraiment un effet d'endiguer le coronavirus?
Ce que nous pouvons dire, c'est que pendant les saisons froides, quand il n'y a pas assez de soleil, il y a beaucoup de sortes de virus, toutes sortes de virus et de bactéries qui se propagent. Nous savons que les rayons ultraviolets du soleil tuent non seulement les virus et les bactéries, mais dans le cas du coronavirus, nous n'en savons pas encore. Nous avons savoir parce que c'est une première expérience. Après un an ou un an et demi, nous aurons le temps d'étudier l'effet du soleil sur ce virus. Mais il y a ce potentiel que, oui, d'habitude, les rayons ultraviolets tuent les bactéries et les virus. C'est le pourquoi nous avons moins de virus en été.
OK. Docteur, nous avons des questions que nos auditeurs ont posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y en a qui se demandent s'il faut faire porter le masque au bébé. Est-ce que c'est si facile que ça? Oui, il faut sortir avec les bébés.
Quel est vraiment le rôle du masque? Le rôle du masque est d'empêcher les sécrétions qui viennent du nez, de la bouche, lorsqu'on parle. Le masque est là pour protéger ton voisin. Ça ne te protège pas toi trop. Et il protège ton voisin à 95%. Même avec le masque, il y a 5% de chance que le coronavirus passe. Mais le masque est là pour protéger le prochain. Et si nous sommes 10 dans une salle et qu'une personne ne porte pas le masque, il nous met tous en danger. Ça veut dire que c'est un phénomène communautaire. Tout le monde doit avoir le masque lorsqu'on n'est pas à la maison ou on est à moins de 6 feet, c'est-à-dire 2 mètres des autres personnes. C'est très important pour baisser la propagation du virus.
Alors, normalement, que doivent faire les autorités politiques pour aider les populations pendant ce déconfinement, surtout les populations qui sont pauvres et qui ne peuvent pas se procurer un masque?
D'une part, comme j'avais dit au départ, l'État devait prendre en charge la santé et la sécurité de toute la population dès le début de cette pandémie. Ça aurait été le moyen d'éradiquer ce virus. L'État n'a pas pu faire ça. L'État a préféré de mitiguer ce virus. L'État ne veut pas éradiquer ce virus, il veut mitiguer. Mitiguer veut dire qu'il veut baisser le taux du virus dans la population, mais il ne veut pas éliminer ce virus. Parce que quand l'État décide d'éliminer ce virus, il devait faire un confinement entre 6 et 8 semaines et l'État devait donner les masques à tous les citoyens. L'État devait donner de l'eau potable à tous les citoyens. L'État devait donner les médicaments à tous les citoyens et aussi à manger. L'État a refusé de prendre ses responsabilités et a renvoyé la responsabilité aux individus. Alors, l'État doit toujours continuer à exiger qu'on ne soit pas dans des foules, dans des bars, dans des endroits où on est intoxiqué et on ne peut plus être à distance, on ne peut plus faire la distanciation. L'État doit avoir des postes pour remettre les masques aux citoyens et de préférence des masques à utilisation multiple. Ça veut dire que les masques en tissu, comme vous l'avez dit dès le début de cette présentation, on doit toujours continuer à laver les mains, on doit toujours continuer à éviter les foules dans les taxis et dans les bus.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Moïse José Tshikala et Jean Bosco Muyombo depuis Mbujimayi en République démocratique du Congo veulent savoir ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie.
Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un médicament qui a été validé ni en Occident ni en Afrique. Nous n'avons pas un médicament qui a été homologué ni en Occident ni en Afrique pour ce produit. Encore moins, nous n'avons pas de vaccins. Ça veut dire que quoi? En ce moment, nous n'avons pas de solutions médicaux. Alors, il faut prendre les mesures de santé publique, les mesures de distanciation, de confinement, éviter d'être dans les foules, avoir son cache-nez lorsqu'on sort et aussi se laver les mains couramment. L'Afrique, n'est-ce pas, cette maladie arrive en Afrique ayant passer dans d'autres continents. Je peux dire que l'Afrique est un peu chanceuse envers cette maladie parce qu'elle arrive en Afrique ayant observé trois différents modèles. Le modèle chinois,
le modèle européen et le modèle américain. Nous, avec le recul, nous pouvons adapter le modèle qui est le plus adaptable à l'Afrique et combattre cette maladie. N'ayant pas beaucoup de structures sanitaires et des équipements médicaux, je pense que la prévention primaire est la meilleure manière de prévenir cette infection de se propager en Afrique. La prévention primaire veut dire qu'on empêche la maladie d'atteindre la population, qui est différente de la prévention secondaire qu'on déploie lorsque la maladie a déjà touché la population et nous empêchons qu'elle se propage ou elle devient un peu plus compliquée. Nous disons que nous devons prendre les mesures de distanciation, nous devons être en quarantaine, nous devons empêcher les foules, nous devons empêcher les grands rassemblements, nous devons éviter d'être dans des endroits confinés avec plusieurs personnes. Lorsque vous sortez, vous devez toujours avoir votre masque. Quand vous rentrez le soir chez vous, vous devez faire un bouillon d'eau qui chauffe avec peut-être du mentholatum ou bien des feuilles locaux. Et vous mettez votre tête dans cette vapeur chaude qui va tuer tous ces virus. Et nous avons des bons produits comme le ginger, le miel. Toutes ces choses peuvent aider aussi à ralentir le virus.
Les gromologues se demandent pourquoi toujours s'inquiéter pour l'Afrique quand on a plus de 2000 morts en une journée dans d'autres pays et 2000 morts dans toute l'Afrique en 4 mois.
Oui, nous nous inquiétons pour l'Afrique parce que nous savons que l'Afrique est l'un des continents à être touché tardivement. Ça a touché d'abord l'Asie, l'Europe, les États-Unis avant de venir en Afrique. Alors nous avons eu le temps de pouvoir prendre des mesures conservatoires d'empêcher que cette maladie affecte l'Afrique en grand nombre. C'est pourquoi on a sonné la sonnette d'alarme pour dire aux Africains, prenez des mesures qui marchent pour empêcher que cette maladie détruise la population africaine. D'une part, d'autre part, l'Afrique n'a pas beaucoup d'équipements médicaux. Et nous n'avons pas les respirateurs et tout autre équipement pour les soins intensifs. Alors, il faut mettre en place les mesures de prévention primaire pour empêcher que nous avons l'hécatombe.
Mania Kapend se demande si l'Afrique sera vraiment l'épidémie du COVID-19 telle que beaucoup d'organisations l'annoncent.
Merci pour votre question. Cette question a été, n'est-ce pas, celui de nombreux auditeurs. L'OMS n'a pas créé une fosse pour l'Afrique et l'OMS ne souhaite pas le malheur pour l'Afrique. L'OMS dit qu'il faut une planification, il faut une prévision, il faut prendre des mesures conservatoires pour empêcher que le virus de COVID devienne un virus communautaire. Parce que jusqu'aujourd'hui, le virus du COVID est un virus importé en Afrique qui reste encore un phénomène des grandes villes. Par conséquent, si nous continuons les mesures de confinement, conservatoire, restrictions, si nous mettons un cordon sanitaire autour des grandes villes, nous pouvons empêcher la propagation de ce virus.
Déogracias Chamba dit que lui, il trouve mieux que tous les pays africains prennent le remède du Madagascar au lieu de contempler l'effondrement de leurs économies dans le miroir du confinement. Qu'en pensez-vous, docteur?
En ce qui concerne Madagascar, il paraît que Madagascar a produit un produit bio qui donne des résultats encourageants. Mais si Madagascar veut importer ce produit à travers le monde, il a besoin de faire certaines analyses scientifiques. Le médicament doit être homologué et validé. C'est un processus scientifique très rigoureux dont les scientifiques mondiaux demandent. Alors, nous disons que le produit est bon, mais il demande encore plus d'analyses. Nous devons connaître la quantité de médicaments qu'il faut prendre. Nous devons connaître à quelle dose ce médicament est toxique. Nous devons connaître la posologie. Nous devons connaître les effets indésirables. Alors, nous devons dire à Madagascar, vous avez un bon produit, mais il faut encore travailler plus pour qu'il soit accepté universellement. Merci.
Joseph Lufuluabu Kaja pose la question de savoir pourquoi l'OMS ne veut pas valider les produits traditionnels que les Africains eux-mêmes ont inventés.
Oui, et la seule indication des médicaments, ce n'est pas seulement pour guérir le malade, mais c'est aussi d'empêcher que ce malade ait d'autres problèmes provenant de ces médicaments. Il y a des effets toxiques et il y a aussi des effets indésirables. Alors, nous devons savoir si ces médicaments ont des effets toxiques et les effets indésirables. Un médicament peut être guéri d'une maladie et en créer une autre. D'autres choses, il faut savoir la posologie, il faut savoir la stabilité du médicament. Combien de temps est-ce que le médicament qui est dans une bouteille peut être stable? Il y a des études. Est-ce que les bactéries se multiplient dans cette bouteille? Lorsqu'il est renfermé, il faut le savoir. Est-ce qu'on prend ce médicament une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour? Est-ce que c'est la même dose pour les adultes que les enfants? Est-ce que les femmes enceintes peuvent prendre ce médicament? Il y a autant de questions qu'on peut poser et qu'on peut résoudre. L'OMS peut aussi encadrer les malgaches à, n'est-ce pas, rendre ce médicament plus efficace et plus et moins néfaste. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans un monde de science et les scientifiques doivent nous aider et nous guider pour valider et homologuer ces médicaments. Merci.
Jean Kamongo se dit, au regard de l'évolution de l'épidémie en Afrique par rapport à l'évolution aux États-Unis, n'y a-t-il pas lieu de dire qu'il y a plus de maîtrise de l'épidémie en Afrique par rapport aux États-Unis?
Oui, nous disons que lorsqu'on regarde l'évolution la maladie et du virus en Afrique, nous constatons que l'augmentation de nombre d'infectés est un peu plus lent que ce que nous avons vu aux États-Unis. Alors, d'une part, nous pouvons dire, encourager les personnels de santé publique en Afrique de continuer ce qu'ils font, les distanciations, la quarantaine, et demander aux gens de rester chez eux. En deuxième lieu, les gens doivent continuer à porter le masque et éviter les grandes foules, et surtout dans des endroits renfermés comme des salles. Nous ne pouvons pas non plus dire que l'Afrique n'a pas été touchée comme aux États-Unis, parce que l'Afrique est au début de la pandémie. Ça veut dire que quoi? Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous devons continuer à faire le bon travail pour empêcher que la courbe augmente de manière rapide ou exponentielle. Alors, nous disons que vous faites déjà un bon travail en Afrique, il faut le continuer. Ce n'est pas le moment de relâcher. La dernière question dans cette série, c'est de savoir pourquoi porter le masque. Le masque est une barrière entre deux personnes. Lorsque vous portez un masque, vous êtes en train d'aider votre voisin. Le masque vous aide moins que l'aide qu'il donne à votre voisin. Vous portez le masque pour, n'est-ce pas, tout le monde qui est autour de toi. En portant le masque, quand vous parlez, quand vous toussez, quand vous éteignez, vos sécrétions sont gardées à vous-même. Et ce sont ces sécrétions qui portent les bactéries et les virus. Quand on dit masque, c'est un cache-nez. Ça peut être un t-shirt autour de ton nez, ça peut être un tissu, ça peut être... On veut tout simplement que votre nez et votre bouche soient couverts. Nous allons continuer à porter ces masques pendant que la prévalence de la maladie est encore élevée. Élevée veut dire que beaucoup de personnes dans la société ou bien où vous habitez sont atteintes. Le port de masque pendant une grande période ne porte pas, pendant une longue durée, n'a pas de risque. Certaines personnes ont dit qu'il y a une accumulation de gaz comme le dioxyde de carbone. Pas du tout. Quand vous êtes un adulte, vous êtes un monsieur qui est grand, lorsque vous sentez les malaises, vous pouvez enlever votre masque, aller dans un endroit où vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours avec le masque quand vous êtes tout seul dans la chambre ou dans un endroit isolé. Le masque se porte lorsque vous serez exposé à d'autres personnes.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes ces questions sur VOA Afrique.
C'est un plaisir pour moi d'être avec vous.
Vous venez de suivre notre interview avec le docteur Constantine Tienkou sur le coronavirus. Maintenant, place à Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, coup de projecteur sur certaines innovations dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Un enfant de 9 ans dans l'ouest du Kenya fait preuve de génie avec une machine unique dédiée au lavage des mains. Ensuite, la lutte contre le nouveau coronavirus à l'île Maurice. Notre entretien exclusif avec l'ancienne présidente Amina Gourib Farim. Dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. La pandémie de COVID-19 a affecté la vie des gens et leurs activités quotidiennes de plusieurs façons. Elle a également mis au défi les scientifiques, les chercheurs et bien d'autres dans le développement de solutions innovantes pour la prévention de COVID-19 et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie. Partons tout de suite en Afrique de l'Est, où un enfant de 9 ans, originaire de l'ouest du Kenya, a conçu une machine unique qui permet aux gens de se laver les mains en évitant la propagation des germes. Steve Mamukota est devenu une célébrité dans les réseaux sociaux pour son invention. Mohamed Humfa.
À Bungoma, ville située à un peu plus de 300 km de la capitale Nairobi, l'on ne s'attendait sans doute pas à une telle publicité. Surtout venant d'un garçon de 9 ans. Steve Wamukuta, c'est lui. Il a conçu une machine qui permet de se laver les mains en utilisant des pédales, évitant ainsi de toucher la machine avec les mains. C'est en regardant la télévision qu'il l'a imaginé.
Je l'ai vu à la télévision quand on assemble des jouets sous forme de voiture et j'ai dit à mon père que nous pouvions faire la même chose. Mais cela pourrait être pour le lavage des mains. Il est allé au travail et quand il est revenu, il a découvert que j'avais fabriqué cette structure où on utilise seulement les jambes pour faire couler l'eau et le savon sans y toucher. Quand il a vu ça, il a décidé de m'aider à la finir.
Son père James affirme que la machine a été conçue pour aider à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.
Mon fils est venu et m'a demandé, « Papa, pourquoi ne fabriquons-nous pas quelque chose que nous pouvons utiliser pour nous laver les mains sans la toucher ?» Le président a dit que le coronavirus se propage à travers les mains et au toucher. Il est allé au marché et a vu des gens utiliser des bidons pour recueillir de l'eau. Il a compris que cela est un moyen de propagation du coronavirus.
À peine achevée, cette machine a été filmée et postée sur les réseaux sociaux au point de devenir virale. La machine attire aussi de nombreux curieux qui comptent bien l'utiliser.
Quand on m'a appelé de venir voir, j'ai découvert le merveilleux travail qu'il a accompli. Cette machine va aider à prévenir la propagation du coronavirus.
Le lavage régulier des mains fait partie des mesures barrières recommandées par les spécialistes de la santé pour limiter la propagation du COVID-19. Cette machine peut donc être utile, surtout dans les lieux publics où les points de lavage des mains sont utilisés par plusieurs personnes. Reste à voir la suite qui sera réservée à l'œuvre du jeune innovateur.
Les ingénieurs et médecins sud-africains ont conçu des appareils peu coûteux pour répondre à un défi majeur posé par le nouveau coronavirus, le manque de respirateurs pour les patients. L'Afrique du Sud se bat afin d'acquérir des milliers de respirateurs supplémentaires dans son combat pour prévenir de nouveaux cas de coronavirus. Reportage de Franco Puglisi avec le récit de Dilidico.
Les respirateurs sont des machines complexes, coûteuses et absolument nécessaires pour traiter les patients de COVID-19. Le manque de respirateurs est un véritable problème, en particulier dans les pays en développement. Alors que l'Afrique du Sud est la nation la plus développée du continent, elle est également la plus touchée en Afrique, d'où un besoin pressant de milliers de respirateurs. C'est pourquoi des médecins et ingénieurs sud-africains se sont associés pour créer des respirateurs d'urgence à la fois bon marché, portables et faciles à utiliser. Ce que nous avions décidé de faire à l'origine était d'avoir quelque chose qui soit abordable et indestructible. C'est à ce moment-là que nous avons commencé la conception de l'O2Box. Développée avec le docteur Jeannot de Beer, la boîte O2, nom donné à ce respirateur, coûte environ $220. Une aubaine en comparaison au prix d'un respirateur standard qui coûte des milliers de dollars. La O2Box peut fonctionner à l'énergie solaire, mais aussi à double voltage et même avec une batterie de voiture. Mais les inventeurs soulignent que cette machine n'est pas destinée à remplacer un respirateur standard. Elle doit pouvoir servir comme dispositif d'urgence en dernier recours.
Using that with the fact that it's quite inexpensive, allowing a person
Utiliser cette machine peu coûteuse permet à une personne n'ayant pas droit à un respirateur pour des raisons de pronostic médical, d'âge ou de progression de la maladie, d'avoir ce respirateur d'appoint. Cette machine donne aux patients plus de chances pour combattre la maladie. Une équipe de l'Université de Johannesburg travaille également sur son prototype de respirateur peu coûteux dont le concept est basé sur un partage d'informations. À partir de cette philosophie, de ce partage d'idées, l'université cherche à créer une sorte de groupe de réflexion ou un centre d'innovation où nous pouvons développer des technologies puis les envoyer dans le monde entier afin que les gens puissent les utiliser. Les experts médicaux sud-africains estiment que le pic d'infection dans le pays pourrait survenir dès juillet ou jusqu'en septembre.
Partons à présent en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, un médecin a trouvé un moyen de transformer les plastiques en objets de protection contre le nouveau coronavirus. C'est l'histoire du docteur Abdallah Ouédraogo, racontée par Mohamed Oumfa.
Là où l'on voit d'ordinaire du plastique à jeter après utilisation, le docteur Abdallah Ouédraogo, lui, voit une opportunité pour protéger son personnel et plus largement les populations. À base de plastique, le docteur Ouédraogo fabrique des visières, sorte d'écran qui permet de se protéger le visage. Une idée qui lui est venue alors qu'il réfléchissait sur de possibles solutions contre le Covid-19.
Nous avons essayé de voir autour de nous qu'est-ce que nous pouvons faire. On a beaucoup réfléchi et un jour comme ça, je suis tombé sur un document, j'ai voulu ouvrir le document. Et quand j'ai voulu ouvrir, c'est le plastique qui s'est d'abord ouvert, pas la page. Quand ça s'est ouvert, en même temps, j'ai regardé, j'ai imaginé, mais ce plastique peut me protéger. Comme une visière.
Les visières sont des équipements de protection des yeux et du visage, souvent utilisés par les personnels des hôpitaux. Elles leur permettent de se protéger contre les gouttelettes émises par des malades qui toussent et peuvent transmettre des microbes. Le docteur Abdallah pense qu'en fabriquant ces visières au Burkina Faso, leur prix sera moins élevé.
Nous nous sommes renseignés, le prix d'une visière importée sur le marché tourne autour de 6 000 francs CFA seulement. Alors que dans nos calculs, avec 10 000 francs, nous pouvons fabriquer 100 visières. Donc si vous comparez, vous voyez, ça veut dire qu'avec 6 000 francs, nous pouvons fabriquer 60 visières. Donc une seule visière importée, le prix d'une seule visière importée peut servir à fabriquer 60 visières locales ici.
Ces visières bon marché peuvent être utiles pour les hôpitaux de nombreux pays africains, non seulement pour protéger leur personnel, mais aussi leur faire des économies, car les visières importées coûtent beaucoup plus cher. C'est en tout cas ce que recherche le docteur Ouédraogo. Sa passion pour l'innovation est visible par tous ceux qui fréquentent sa clinique. Il a conçu un rond-point à l'aide de vieux lits d'hôpitaux et l'a décoré avec un stéthoscope. On peut aussi y voir des panneaux de signalisation à base d'objets recyclés et un parking divisé avec des pneus usés.
Les pays à travers le monde ont adopté diverses stratégies pour contenir la pandémie de COVID-19. En Afrique, l'île Maurice est considérée comme l'un des pays qui ont fait preuve d'efficacité dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Je me suis entretenue avec l'ancienne présidente de l'île Maurice, Amina Gourib Fahim, qui a élaboré sur l'expérience de son pays dans la lutte contre la pandémie.
Je pense que nous avons simplement respecté ce qui a été prescrit au niveau international lorsque le premier cas a été détecté début mars. Il y a eu une fermeture de l'espace aérien et des personnes qui entraient étaient mises en quarantaine. Aussi, parce qu'on offre des soins de santé gratuits, l'accès aux médicaments n'était donc pas un problème. Nous avons donc toujours adhéré aux meilleures pratiques et les gens ont également été assez disciplinés. Je dois dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que tout d'un coup, votre vie a été complètement transformée. Mais sachez qu'à la fin, les gens ont compris que nous parlons d'une maladie pour laquelle il n'y avait pas de médicaments prescrits en tant que tel. Et les gens ont dû coopérer autant que les gouvernements l'ont fait. De plus, ils ont eu la responsabilité de fournir des directives très claires et des directives pratiques.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était consacrée à la lutte contre la propagation du COVID-19 en Afrique, surtout maintenant que les pays ont commencé le déconfinement. Nous avons eu une interview avec le docteur Constantine Tienkou, qui est virologue, hématologue, oncologue et pédiatre. Il est aussi propriétaire de la clinique médicale Healing Hands Medical Center à Fairfax, Vienna, en Virginie, ici aux États-Unis. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linan Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel.